Alors on a l'impression, en quelque sorte, qu'il est déjà comme achevé. Hein. Et un peu plus loin, le même auteur dit: c'est comme néoplatonicien qu'Augustin est devenu chrétien. En tant que néoplatonicien et théologien chrétien, Boèce est au fond resté un païen. Donc ça, c'est l'attitude de Campenhausen. Sa foi philosophique lui suffit, et quand il écrit sur la théologie, c'est en tant que logicien. Néanmoins, son culte a été autorisé à Pavie à la fin du XIXe siècle, et donc il est considéré comme saint.
Comme
Donc,
ça.
oui, donc vous voyez, Campenhausen est assez réticent, il considère que il est resté fondamentalement un philosophe dont le platonisme a été christianisé, mais la tradition a vu en lui aussi quelqu'un qui a pu justement faire passer un christianisme très intériorisé, très personnel, dans une forme philosophique classique, celle du dialogue philosophique. Vous voyez. Bon, alors on va s'arrêter avec Cassiodo. Oui, comment? Ou on pourrait peut-être terminer avec Cassiodore. Alors Cassiodore, c'est d'ailleurs une sorte de cousin de Boèce. Alors lui, il s'appelle Magnus Aurelius Flavius Cassiodorus, à peu près de la même époque, 485-490 hein, pour sa naissance. Et alors lui, il a eu la chance de renoncer à la politique assez tôt, ce qui lui a permis de vivre jusqu'à 585. Alors ce Cassiodore était originaire de Syrie. Sa famille avait été possessionnée en Italie pour des services éminents rendus à l'Empire. Et lui aussi était apparenté à Boèce. Enfin, il était apparenté à Boèce. Donc il avait lui aussi des empereurs dans la famille. Il avait servi le roi Théodoric. Et il était, alors que Boèce était magister officiorum, donc chancelier, lui était quaestor palatii, quaestor du palais, c'est-à-dire en fait ministre de la justice. Il l'était pendant un certain nombre d'années. Il succédera à Boèce après la disgrâce de Boèce, et il deviendra même préfet du prétoire. Vous voyez que les Germains aimaient bien conserver les titres, les anciens titres impériaux. Mais il a réussi à éviter les pièges de la politique et à servir simplement comme administrateur. Et après la reconquête ordonnée par l'empereur Justinien, donc ces guerres gothiques, eh bien, il se retire sur ses terres. Vous savez, c'est la reconquête qui est menée par le général Bélisaire, hein, qui va reprendre une bonne partie de l'Italie, de l'Afrique du Nord, etc. De manière un peu brutale, ce qui fera d'ailleurs que ça n'ancrera pas vraiment les peuples dans la fidélité à l'Empire. Alors, il se retire sur ces terres qui sont pas petite, lui non plus, et il va fonder un monastère d'études auprès duquel il va vivre. Un monastère où les moines vont surtout se livrer à des travaux de l'esprit. Oui. Alors, ça s'appelle le vivarium, qui est le nom d'un marais qui était très riche en poissons. Hein, un marais qu'il a d'ailleurs transformé en comment on appelle ça, en vivier, justement pour alimenter son monastère. Et là, le travail des moines, c'est copier, traduire, relier, recueillir et conserver les livres pour sauver et transmettre à la postérité le patrimoine culturel antique. Vous voyez, Cassiodore avait conscience de la fin d'un monde et il rassemble tout ce qui peut de la culture occidentale latine pour le transmettre à des générations qui pourront le faire fructifier. Et du coup, il a inauguré ce qui va être l'activité culturelle du haut Moyen-Âge, c'est-à-dire la transmission du savoir, avant que cette transmission, fécondée par quelques esprits brillants, au milieu du Moyen-Âge, aboutisse à un renouveau, une nouvelle explosion de connaissances. Alors, de lui, on a une correspondance extrêmement abondante, 468 lettres, ce qui est énorme. On a Augustin, c'est la moitié, Grégoire le Grand aussi, etc. Et puis, d'innombrables documents administratifs qu'il avait aussi signés en tant que ministre, et qui reflètent finalement toute son activité de haut fonctionnaire jusqu'à sa retraite en 538. Vous voyez, il a pris sa retraite à moins de 50 ans. Et puis, après, pendant près de 50 ans, il a mené une seconde vie de... Alors, pas vraiment de moine, voilà, auprès du monastère qu'il a fondé et qu'il a d'érudit, on peut dire. Alors, il nous a laissé un manuel d'études littéraires, les Institutiones, destiné aux moines de son vivarium, parce qu'il s'est rendu compte que ces moines, enfin, étaient quand même, enfin, justement, que les lettres se perdaient, et qu'il fallait recommencer à partir du béaba du latin, donc reprendre l'enseignement de la langue. Et puis, lui aussi va nous donner des traités sur les arts libéraux, justement, sur les sept disciplines de la culture antique. Il écrit une histoire du royaume gothique, hein, une Historia Gothica, de l'Italie sous domination germanique, des commentaires de psaumes, une histoire ecclésiastique qui prend la suite des continuations de Zeb de Césarée, et il finira par faire un traité d'orthographe, pour vous dire, à 93 ans, pour corriger les défauts de ces moines. Et alors, si je ne me trompe, c'est lui je crois qu'il y a une phrase, mais je ne l'ai pas notée là, qui parle de des lettres qui se perdent. Nous sommes à une époque où les lettres se perdent. Donc c'est vraiment l'idée, la conscience aiguë de la fin d'un monde. Oui, donc c'est aussi bien Cassiodore, mais Cassiodore plus encore que Boèce, c'est l'idée qu'on est arrivé à la fin d'un monde. D'ailleurs, c'est même plus les Romains qui gouvernent Rome, puisque c'est un peuple d'envahisseurs. On se retrouve soumis à des barbares. Et voilà, on est.
Ça n'a rien à voir avec
non, surtout pas. Et donc, on rassemble dans des lieux isolés, des lieux protégés, ce qu'on peut sauver de la culture antique fécondée par le christianisme. Donc, dans ce monastère de Vivarium, dans les monastères donc fondés par Saint Benoît. Donc, et on arrive à la fin d'une époque. Alors, comme je vous dis, c'est la fin d'une époque à l'ouest, mais de l'autre côté de l'Adriatique, en revanche, c'est la continuation. Ce qui est amusant à cette époque, c'est qu'on a véritablement des temps très différents qui coexistent. Hein. Un peu comme nous, quand on a découvert l'Afrique ou l'Amazonie, on tombe sur des tribus qui étaient à l'âge de pierre. Et nous, on est dans le haut Moyen-Âge, là, on a commencé dans le haut Moyen-Âge. Le monde grec, byzantin, dalmate, et encore dans le... Enfin, dalmate, plus très... Ils sont déjà envahis. Ils sont encore dans la persistance de la culture latine, enfin de la culture romaine plus exactement, hellénique. Et ça durera quand même, ça durera encore des siècles, hein, avec une évolution certes, mais ils n'entreront pas dans le Moyen-Âge, vraiment. Alors que nous, oui, et alors dans certains coins, plus vite que d'autres, hein, quand les légions se retirent de Bretagne, c'est voilà. Alors qu'elles resteront plus longtemps en Gaule, et puis les premiers envahisseurs germaniques d'Italie vont avoir un respect quasi religieux des institutions romaines. Voilà.
Je vais poser une question pour la Vierge Marie. Est-ce qu'en fait, quelle est la place de la Vierge Marie dans
patristique, elle n'est pas très développée. En fait, la théologie, d'ailleurs, c'est comme l'ecclésiologie, hein, ce sont des disciplines qui sont surtout développées avec le monachisme. Alors, vous allez me dire, dans l'Antiquité, il y a déjà des tas de monastères, etc. Mais bon, sur les monastères, on se met à l'écart du monde, etc. On cherche la perfection. Voilà. Mais c'est progressivement avec la dévotion, comme je vous dis, avec Saint Benoît, on met bien le Christ au centre. Bah, plus on regarde le Christ, plus on tombe aussi sur sa mère, quoi. Et ça va émerger avec Saint Bernard, globalement. Plus tard, au Moyen-Âge, mais il y a aussi des textes remarquables déjà chez les Orientaux, hein, chez les Pères de l'Orient. Et progressivement, la place de la Vierge Marie va croître avec la mystique monastique, et puis qui va passer dans la culture chrétienne populaire, qui est très dépendante du monde monastique. Hein. Regardez par exemple la création du rosaire. Finalement, les gens vont apprendre à prier avec des prières mariales. Hein. Alors, vous savez que la première prière mariale qu'on connaît, c'est le Subtum Presidium. Subtum Presidium, qui date du début du deuxième siècle en Égypte.
Et
François a remis à
l'honneur.
Oui, oui, oui. Saint-Michel qui a été abandonné. Oui, oui. Et puis, alors ensuite, on aura, vous voyez. Dans l'architecture, on a ces espèces de... Par exemple, en Franconie, il y a encore pas mal d'églises qui ont des jubés. Et les jubés étaient tous surmontés d'espèces de couronnes où il y a la Vierge dedans. Il y a la croix, et souvent, c'est la Vierge. Et puis, d'ailleurs, Rosenkranz, hein, ça vient couronne de rose, hein, ça vient un peu de là. Et puis, bon, voilà, la prière mariale va se développer. Et puis, la réflexion sur la Vierge Marie, hein. Alors, vous avez évidemment les virtuoses de l'analogie, de l'allégorie, qui vont le développer à partir des deux Adam et des deux Ève. Donc ça, c'est un lieu commun. Mais c'est un lieu commun qui va un petit peu infuser dans le cœur des fidèles. Ça va passer des écrits des pères à la spiritualité commune des chrétiens. Et donc voilà, on en est. Ça s'est développé comme ça. Et puis alors après, il y a eu aussi toute la réflexion dogmatique qui aboutit au dogme Mario.
Plus tard, non?
Ah, largement, oui. C'est
le dernier, c'était.
Le dernier, c'est. Oui, voilà, c'est Pie IX et Pie XII. Donc, c'est vraiment récent. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont dans les tuyaux. Là, on parle de. Le cardinal Mercier, là, au début du XXe siècle, était très partisan de Marie, médiatrice de toute grâce. Et. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles les évêques se sont laissés convoquer pour le deuxième, la, Concile du Vatican, c'est que c'était une de leurs demandes. Hein. Alors, finalement, ça n'a pas été pour des raisons un peu d'œcuménisme avec les protestants. Ça ne s'est pas fait. Mais ça aboutit quand même à l'idée de Marie, mère de Dieu, quand même. Mère de l'Église. Oui, quand même que Paul VI, là, pour le coup, d'une manière assez autoritaire, a imposé... un moment où justement, ben, finalement, on ne parlait plus trop de la Vierge Marie. Et donc le pape, à la fin de la Constitution sur l'Église, a inséré cette nouvelle dénomination qui est aussi entrée dans les litanies de Lorette, par exemple. Hein. Donc voilà. Bon, eh bien, alors, la fois prochaine, c'est, si je ne me trompe, bien jeudi prochain. Oui. Voilà.